Bonjour à tous. Une grande table chinoise aujourd'hui, avec dans la deuxième partie de la grande table de la dissidence au désespoir dans des balles et de l'opium qui paraît aux éditions Globe. Liao Yiwu fait œuvre de mémoire en compilant les témoignages des oubliés de Tiananmen, de ceux à qui on ne donne plus la parole aujourd'hui. Le poète et opposant sera avec nous pour en parler à partir de 12h55. Mais d'abord, Objectif Chine, le renouveau de la photo à l'occasion de l'exposition Love de Zhen Hang à la Maison européenne de la photographie jusqu'au 26 mai et à quelques jours de l'ouverture de Art Paris, ce jeudi au Grand Palais, rendez-vous avec la nouvelle scène chinoise de la photographie dans l'œil de Jean-Luc Sauret, commissaire d'exposition, et de Romain Degoule, l'un des fondateurs de la galerie Paris-Beijing. Bienvenue à tous sur France Culture, on est ensemble jusqu'à 13h30.
La grande table. Olivia Gesbert.
C'est une première muséale à Paris, la grande rétrospective que la Maison européenne de la photographie lui consacre. Zhen Hang, pionnier de la photographie contemporaine et poète chinois, enfant prodige disparu à l'âge de 29 ans. Il y a du Adam et Ève dans ses photos, l'idée d'un paradis perdu, avec ses corps nus, filiformes, sur les toits de la ville, dans l'herbe folle ou sur fond blanc. Fleurs, serpents, pieuvres finissent de composer ces tableaux tactiles aux couleurs acidulées. Voilà ce qu'il en disait en 2016.
J'avais beaucoup de temps libre lorsque j'étais à l'université. Alors j'ai commencé à prendre des photographies. J'utilisais un appareil compact bon marché avec flash intégré. À mon avis, les images digitales sont complètement plates. Elles n'ont aucun effet tridimensionnel. J'aime photographier sur pellicule parce que vous devez attendre le résultat. Ce processus d'attente est très excitant pour moi. Parfois, ça ne prend pas aussi longtemps que ça. Mais tout de même, c'est quelque chose de très beau. Je n'ai pas d'assistant quand je photographie. Je travaille seul. Mais le développement et les impressions sont réalisés par un ami. Vous pouvez facilement avoir des ennuis en Chine si vous prenez des photos de nu. C'est pourquoi mon ami ne développe que les photos qu'après les heures de bureau. La censure n'a pas d'influence sur mon travail. La politique s'intéresse à moi, mais moi, je ne suis pas intéressé par la politique.
Avec nous aujourd'hui autour de la grande table, Jean-Luc Sauret, co-commissaire de cette exposition consacrée au photographe Zhen Hang, en ce moment à la Maison européenne de la photographie, co-commissaire avec Simon Baker, le nouveau patron de la MEP. Bonjour à vous Jean-Luc Sauret.
Bonjour Olivier.
Et à vos côtés Romain Degoule, qui est l'un des fondateurs, co-fondateurs de la galerie Paris-Beijing. Vous avez d'abord une galerie en Chine que vous êtes plus ou moins en train de fermer pour l'instant et de reconcentrer vos activités ici à Paris dans cette galerie que vous avez co-fondée. Bonjour à tous les deux. Alors, Zhen Hang, il s'est suicidé en 2017, il y a deux ans. Vous l'avez, vous, rencontré, Romain Degoule, un peu plus tôt, six ans auparavant, la première fois, à Pékin. Il commençait tout juste à exposer à ce moment-là. Il devait déjà composer avec la censure qu'il évoque dans l'extrait qu'on vient d'entendre.
Oui, absolument. En 2011, il avait fait l'objet d'une grande rétrospective, déjà à l'époque, organisée par le commissaire d'exposition Li Xianting, qui est vraiment une sommité dans le monde de l'art contemporain chinois. Et je l'ai rencontré donc à l'occasion de cette exposition qu'ils avaient organisée dans un musée privé, le musée que s'était fait construire Li Xianting, dans un village d'artistes qui s'appelle Songjiang et qui est très reculé de Pékin, parce que il n'aurait pas été question de montrer une telle série d'images dans la ville de Pékin ou dans l'ensemble des galeries qui sont composées par le centre 798 à Pékin, qui est un peu le cœur battant de l'art contemporain en Chine. On n'aurait pas été capable de montrer ce genre d'image.
Ça a été vraiment un parcours de comète pour Zhen Hang, parce qu'il a commencé à faire des photos entre 2005 et 2010. Ça a été exposé assez rapidement après, au début des années 2010, pour décider de partir avec presque une mise en abîme de ses photos. Je crois que qu'est-ce qui s'est passé exactement?
C'est effectivement, tout est allé très vite, comme c'est souvent le cas quand on rencontre ce genre de talent en Chine depuis une quinzaine d'années. Il n'est pas le seul artiste isolé à avoir connu une carrière effectivement fulgurante. Très vite, la presse internationale s'est emparée un petit peu de son travail, et notamment la photographie, la presse de mode. Il a été très sollicité tout au long de ses dernières années de sa vie comme photographe de mode pour les plus grands magazines.
Il s'est suicidé du haut d'un building qu'il a énormément photographié. C'est presque une mise en abîme du travail qu'il a pu faire aussi. Dans le catalogue Taschen qui lui est consacré, il y a des photos beaucoup plus crues que celles que vous avez co-choisies d'exposer à la MEP en ce moment. Jean-Luc Sorey, des nus, dans les poses, dans les lumières aussi utilisées. Certaines jouent directement avec les codes de la pornographie. Vous avez fait le choix d'un registre un peu plus suggestif, des jeux de composition, de couleurs.
Oui, absolument, c'était pour justement pour rendre compte de la démarche de Rehang, qui me semble ne pas devoir être réduite à quelque chose de pornographique, ni même d'érotique, parce que si la dimension érotique est présente dans ces images, de mon point de vue, elle est vraiment en second plan devant la recherche formelle qui saute aux yeux quand on voit les premiers clichés de Rehang avec ses carmins. Les rouges à lèvres, le rouge sur les ongles, la blancheur des peaux, le noir jet des chevelures, et la façon dont Rehang saisit ses compositions dans une sorte de logique, d'énergie performatique qui est jubilatoire. On voit, et d'ailleurs il ne s'en cachait pas, la dépression dont il souffrait. En fait, il l'oubliait, la contournait quand il faisait ses tirages, et pour lui, c'était une façon de la maintenir à distance dans cette jubilation. Et quand je parle de cet aspect un peu performatique qu'il avait lors de ses prises de vue, c'est que même si ces images paraissent extrêmement bien construites, il y avait autour de lui un registre formel et chromatique qui était composé par les corps, les fleurs, les animaux, et il s'en servait de façon vraiment instinctive, quasiment improvisée dans un réduit parfois, qui était celui de sa chambre ou de son petit appartement de quelques dizaines de mètres carrés. Mmh. Et c'est saisissant de voir d'ailleurs avec quelle économie de moyens il a produit cette imagerie vraiment fascinante.
Il y a une liberté folle des corps aussi dans ces photos de Jen Hong, des photos qui ont aussi quelque chose d'assez intense et de fragile, comme une urgence qu'il fallait aussi capter pour lui, avec une certaine idée de la beauté. Je ne sais pas quelle était pour vous, Romain Degout, l'idée de la beauté qu'il pouvait se faire à travers aussi... ces images.
Moi, ce qui m'a frappé quand j'ai découvert son travail, donc en 2011, c'est vraiment la singularité qu'il apportait en fait à la photographie nue. On est habitué à une photographie nue pratiquée par les grands photographes de mode depuis une quarantaine d'années. Helmut Newton, de Marchelier, sont des gens dont on connaît l'esthétique, une esthétique très lissée, à l'aide de grands appareils photo très, très grand format, de lumière très forte, des flashs, des studios, des mannequins, des modèles qui sont parfaitement préparés. Habillé. Bon, chez Jen Hong, on est très très loin de tout ça. Il y a de la spontanéité qui se met en place, on le sent directement. Il y a effectivement un grand naturel. On a l'impression qu'il prenait rendez-vous avec ses modèles 2 heures avant et qu'il organisait tout ça de manière très spontanée. Et les corps commençaient à s'entremêler, mais en même temps, les visages et les expressions restent assez lointaines. Ça crée beaucoup de poésie. Et ça crée aussi souvent des situations un peu cocasses, avec ces corps qui s'entremêlent, mais en même temps, on joue vraiment avec le corps. Et on arrive vraiment à l'humour, en fait. Dans la plupart des images de Jen Hong, on peut se mettre, on va sourire avant d'exprimer, comme disait Jean-Luc, avant de voir le côté érotique, on va avant tout voir le côté humoristique, parce que on arrive à des situations parfois qui dépassent un petit peu l'entendement.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec Romain. Il y a une dimension, un humour qui est latent dans ces images, et je rajouterais que par rapport à ce qu'il amène au nu, dont on semblait à juste titre avoir fait le tour, c'est cette déhiérarchisation de la façon dont il traite le nu masculin et féminin. Les deux sont traités à égalité, et c'est une des choses qu'il apporte avec cette fraîcheur dans le nu contemporain en Chine, qui, on peut le rappeler, est quand même quelque chose de très éloigné de la tradition chinoise, puisque le nu, la Chine est complètement passée à côté, contrairement à l'Occident, avec l'héritage grec et puis l'intérêt qu'on a eu pour l'anatomie.
Donc pour vous, il allait puiser aussi dans les codes un peu occidentaux, dans les représentations du nu, parce qu'on l'a souvent rapproché aussi d'une Nal Goldin ou d'un Robert Mapplethorpe ou d'autres, alors que lui se plaçait d'ailleurs plutôt dans le sillon d'Araki. Hein.
Oui, mais tout en relevant, là, il y avait Araki, il y avait aussi Terayama, cet artiste de la scène d'avant-garde japonaise des années 70, où il y avait un univers érotique très très particulier, très déjanté. Je dirais que là encore, pour Anne Hang, on peut au niveau des influences, il ne s'en réclamait pas. Il réclamait cette liberté de ton qui est la sienne. Et quand il parlait là encore des autorités qui s'invitaient dans ses prises de vue pour le censurer, il disait que c'était vraiment sa liberté de ton qui faisait la différence.
Alors vous dites humour, lui disait je aussi. On va l'écouter, Anne Hang, quand il est de passage à Paris à l'occasion d'une exposition de lui dans votre galerie Romain de Gaulle, c'était en 2014.
Aujourd'hui, c'est juste un shooting normal pour moi. Je ne planifie pas beaucoup. Je shoot quand j'ai une idée. Je prends des photos 3 ou 4 jours par semaine. Mes amis sont mes modèles. Il y a aussi des gens qui ont entendu parler de moi sur Internet et qui me contactent. Je dois d'abord parler avec eux et voir si on s'entend bien. S'amuser, c'est la partie la plus importante du shooting. Il n'y a aucun intérêt à continuer à shooter si les modèles ne s'amusent pas. Si les modèles et moi, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur le concept, on ne continuera pas et on fera quelque chose d'autre à la place. Je ne sais pas ce que la plupart des gens pensent de mon travail, ce que je fais et le retour de ce que je reçois de mes expositions. Parfois, on me dit le jour de l'exposition que je ne peux pas montrer telle photo. Quand une image est considérée comme porno et que je ne peux pas l'imprimer, je mets juste un cadre au mur. Parfois, la police vient le troisième jour de l'exposition et l'annule.
Parfois, la police vient et peut annuler l'exposition ou demander à ce que des photos soient retirées. Il n'y avait pas de risque pour les modèles aussi qui acceptaient de faire ces photos, Romain de Gaulle, parce que c'est quand même des modèles qui posent à visage et à orifice découvert. Hein.
Oui. Non, vraiment, en fait, c'est la censure qu'a pu vivre Anne Hang, c'était au niveau de l'impression de ces images. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où il les montre à un public que les problèmes vont arriver. Alors bien évidemment, ces modèles étaient parfaitement consentantes. C'était aussi beaucoup un jeu pour elles, et pour eux d'ailleurs. J'en ai rencontré certains qui m'ont toujours raconté le plaisir qu'ils prenaient, un petit peu dans la subversion bien évidemment, de repousser les limites justement et de leur corps et des jeux effectivement qui pouvaient se mettre en place. C'est aussi l'apanage de cette nouvelle génération, la génération de l'enfant unique en Chine, une génération beaucoup plus individuelle, qu'elle soit artistique ou le commun des mortels, et où on essaye d'expérimenter différentes choses. On voit le monde aujourd'hui avec son propre moi, et on essaie d'appréhender les choses de la société avec plus de, comment dire, plus d'individualisme. Donc on va penser à sa sexualité, on va penser à son corps, on va penser à son développement personnel, ce qui n'était pas le cas il y a une vingtaine ou une trentaine d'années.
Alors est-ce que c'est une démarche totalement apolitique, Anne Hang, mais aussi Shen Ze, Chen Wei, Lin, Zipeng, tous ces artistes chinois de cette nouvelle génération, de cette nouvelle scène, exposent un corps manifeste de ces nouvelles aspirations d'une génération qui dit ne se revendiquer d'aucune opposition politique, mais qui transgresse quand même des normes sociales et culturelles. Pour vous, de quoi le corps était-il aussi l'étendard ou enjeu de représentation pour cette génération, Jean-Luc Sauret?
Mais disons que Anne Hang le disait, lui, c'est la politique qui s'invite dans son travail et pas l'inverse. Donc c'est pas quelqu'un qui se revendiquait d'une opposition au régime, mais en revanche, la liberté miraculeuse de ton qu'il a réussi à maintenir était en elle-même un acte de résistance.
Des photos tiraillées pour beaucoup entre deux systèmes de valeurs. On peut l'écouter aussi à travers les mots de la photographe Liu Yang, qui était invitée à la galerie Mo Industrie. Elle parle avec la directrice de la galerie, Eva Morawiec.
Ces filles sont comme des fleurs, leur monde est riche et coloré, elles vivent des choses formidables. C'est cela que je veux exprimer dans mon travail, ce que je ressens et comment je vois le monde dans lequel nous vivons avec toutes ces contradictions.
Les filles de Luo sont des dures à cuire, mais elles sont aussi tellement vulnérables et fragiles. Ces filles sont les témoins de cette génération tiraillée entre la société traditionnelle chinoise et le capitalisme sauvage qui a cours actuellement en Chine.
Jean-Luc Sauret, sur ce tiraillement qu'on peut retrouver dans les photos de ces artistes, photographes.
Oui, donc je voulais juste ajouter que la censure, quand elle a eu lieu pour Enang, il était marqué que il y avait suspicion de sexe, et donc c'est la raison pour laquelle certains accrochages ont été interrompus, même des séances de photos, parce qu'ils disaient ça avec beaucoup de malice, que le soir, en fait, ils escaladaient quand ils allaient faire des clichés dans les parcs, ils escaladaient les grilles fermées, et il fallait très vite que les modèles se déshabillent, prennent la pose, le cliché était pris en quelques secondes, et hop, tout le monde se rhabillait et dégarpissait, donc il y avait un côté à la fois très, très enfantin et très joueur avec la censure.
Mais Romain de Gaulle, vous évoquiez le recrutement de ces modèles. Parfois, 2-3 heures avant la séance photo, ils ne se connaissaient pas et beaucoup passaient aussi par Internet. Et ça, c'est une des caractéristiques de cette nouvelle génération, de cette nouvelle scène dont on peut dire que Zhen Hong est l'un des chefs de file, ou en tout cas, il a été très à l'avant-garde là-dessus. C'est l'utilisation d'Internet, des forums, des réseaux sociaux. C'est une culture, la culture d'Instagram, une culture du texte et de l'image pour cette génération-là, non ?
Absolument, c'est le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, même en Occident, hein, bien évidemment. En Chine, les plateformes de communication, Tai Weibo par exemple, se sont développées très 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 fortes. C'est un peu il y a WeChat, il y a Weibo pour communiquer. Et ça permet bien évidemment de créer des rencontres, de parler aussi de manière déliée, même si c'est très surveillé, de parler de manière déliée et d'organiser toutes sortes d'événements culturels et artistiques, même un petit peu underground. Il est vrai que Zhen Hong, par exemple, a utilisé très 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 vite l'internet pour montrer son travail, parce que c'était à peu près la seule manière qu'il avait de le faire dans une Chine où on pouvait pas montrer ses clichés. Il publiait aussi ses poèmes sur son site, était très important, il était vraiment très proche de la poésie et il faut voir son travail aussi comme parfois comme des sonnets. Et donc voilà, ça l'a beaucoup effectivement aidé à faire connaître son travail.
Vous êtes allé puiser dans son blog, Jean-Luc Sauret, pour absolument. Cette exposition à la MEP en ce moment aussi, textes et photos, c'était sa galerie d'exposition.
Tout à fait, ouais. C'est ce qui fait que du coup la dimension de l'exposition a gagné en importance au niveau du nombre de clichés qui ont été montrés, parce qu'on a à peu près monte à peu près 130 tirages issus de 3 collections donc internationales et ont été rajoutés à ces images effectivement toutes les images que Zhen Hong avait mis sur son site web qui a été fermé sitôt après sa mort. Mais ensuite moi j'ai utilisé un outil de carottage temporel qui est très très intéressant, qui s'appelle web.archive.org et qui vous permet de remonter dans le temps et de trouver l'internet dans l'état où il était à l'époque où on veut aller faire ses recherches. Et donc du coup, ce faisant, j'ai pu accéder à toutes les images du site web qui ont été ensuite montrées et qui sont actuellement montrées sous la forme d'un diaporama. Donc on regroupe à peu près, je pense, plus de 1500 images.
Le corps a quand même été un champ de liberté aussi pour cette génération. Jusqu'ici, la censure s'introduisait quand même moins dans tout ce qui était la vie intime aussi de cette jeune génération chinoise. Il y avait la loi déjà anti-images pornographiques de 49 qui permettait de censurer certaines images. Mais aujourd'hui, le New York Times raconte dans un article paru la semaine dernière la nouvelle croisade du Parti communiste contre le plaisir, cette campagne lancée très puritaine contre ses représentants. Ça va des boucles d'oreilles, des pop stars qui sont floutées sur les photos qui circulent, à tout ce qui touche à la représentation un peu efféminée du corps de l'homme, des joueurs de football qui doivent porter des manches longues pour cacher leurs tatouages. Il y a pour vous aujourd'hui, qui connaissez bien la Chine, Romain de Gaulle, une sorte de retour de bâton qui est en train de se jouer, une régression.
Bien évidemment, oui, on le sent. Je suis en lien avec des acteurs de la scène artistique et culturelle quasiment quotidiennement. Et on ressent depuis 3-4 ans effectivement un vrai resserrement depuis l'entrée en charge du président Xi Jinping, qui considère clairement que l'industrie audiovisuelle et artistique et culturelle est au service de l'État. Pour preuve, au mois de mars dernier, il a fait passer le comité de régulation justement de la culture sous le joug du ministère de la propagande. Donc aujourd'hui, c'est le ministère de la propagande qui gère toute l'industrie culturelle, toutes les possibilités et les régulations de l'industrie culturelle. Donc un ami, par exemple, qui a développé la dernière salle de concert, enfin la salle de concert à Pékin la plus en vogue depuis une dizaine d'années, a dû fermer récemment parce que plus aucune autorisation ne lui est donnée pour importer des groupes occidentaux. On a peur aujourd'hui vraiment de tout, et ça se développe un petit peu comme un fléau, effectivement. Il y a vraiment un très très gros resserrement qui s'opère, et c'est extrêmement sensible.
D'où peut-être aussi l'intérêt pour certains artistes de se rendre invisibles. C'est un autre artiste important du moment sur la scène artistique chinoise, le caméléon Liu Bolin et son théâtre des apparences. Lui, il se fond dans le décor d'un champ, un mur de drapeaux, de téléphone portable. Écoutez.
J'appelle l'ensemble de mon œuvre, de ma création, camouflage urbain, et certains me désignent comme l'homme invisible, c'est mon surnom en quelque sorte. Mais à travers cette œuvre, je cherche en effet, de par ma disparition, de mettre en scène les contradictions entre l'environnement créé par l'homme et l'homme lui-même. En fait, j'ai une impression que je souhaiterais vous partager un sentiment. Dans mes œuvres, je cherche à mettre en scène un concept de la tradition chinoise, à savoir l'harmonie entre l'homme et la nature. Dans le taoïsme chinois, on parle du fait que l'homme doit être intégré à la nature. Mais le problème de notre monde actuel, c'est que l'environnement créé de toutes pièces par l'homme lui-même porte atteinte à l'homme.
Liu Bolin, vous l'avez exposé à la MEP en 2017, Jean-Luc Sauret, Romain de Gaulle, il fait partie de votre catalogue d'artistes dans votre galerie Paris-Beijing, et vous viendrez avec certains de ces clichés, de ces photos à Art Paris, qui s'ouvrira donc ce jeudi à Paris. Pour tous ces artistes pionniers, et notamment pour Liu Bolin, qu'est-ce que représente le médium photo?
Alors, en ce qui concerne Liu Bolin, c'est un peu particulier. Il fait partie d'une génération d'artistes qui utilise le médium photo comme un enregistrement d'un moment T dans le temps. L'important dans sa démarche, c'est vraiment la performance. C'est le moment où il va poser, se fondre avec son environnement pour dénoncer un petit peu l'aliénation de l'être humain par l'environnement, qu'il soit culturel, environnemental bien évidemment, écologique. Il a des préoccupations aussi qui sont de l'ordre du consumérisme. Et donc effectivement, on s'éloigne du médium photographique. Il n'est qu'un enregistrement.
Voilà, c'est un support, une pratique parmi tant d'autres, puisqu'il la mêle au body art, à la performance, à l'art optique, au spectacle vivant, dans une certaine mesure. Donc c'est vraiment, effectivement, comme le dit Romain, un des supports qu'il utilise dans sa création.
Il faut bien distinguer le travail de ces artistes photographes de celui des photoreporters, avec notamment une démarche comme celle de Lou Guang, qui n'appartient pas directement à cette sphère-là, pour vous?
Oui, c'est deux sphères différentes, la photographie plasticienne et la photographie de reportage, comme vous le savez. Ne sont même pas les mêmes mondes. Alors bien évidemment, il peut arriver que des grands photoreporters terminent dans les musées, tout simplement parce que leur œuvre est tellement intense, tellement puissante et raconte tellement le monde de ces 30 dernières années ou de ces 40 dernières années qu'on ne peut pas la faire découvrir au public. Mais le photographe plasticien va utiliser la photographie comme un moyen d'expression, alors que le photoreporter va utiliser la photographie comme un témoignage.
Lou Guang a été arrêté l'an passé. On va écouter ce qu'il disait il y a quelques années à propos de sa pratique de la photographie documentaire.
En Chine, c'est difficile de documenter les problèmes sociaux. Il y a différents facteurs. Par exemple, les problèmes que je veux montrer, si quelque chose de mal a été fait et que je veux le mettre en avant, alors ils essaient de nous arrêter de photographier. Je me fais toujours attraper lorsque je prends des photos, mais en général, j'arrive à me sortir de la situation grâce à différentes tactiques. Jusqu'à présent, rien de sérieux ne m'est encore arrivé. Par exemple, ils veulent me prendre ma caméra ou me frapper, mais ça va, rien de sérieux. J'arrive souvent à éviter les vrais ennuis. Mais je vais continuer à remettre en question ces problèmes, parce qu'il y en a trop en Chine. En tant que photographe, c'est ma responsabilité d'enregistrer, de publier et de changer ces problèmes.
Le prix de la responsabilité, Romain de Gaulle, on l'entend bien.
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Mais il est évident que Lu Guang a pris des risques en s'attaquant à un sujet qui est vraiment un problème majeur aujourd'hui pour le gouvernement chinois, c'est-à-dire le sujet Ouïghour. Bien évidemment, il a été suivi dans sa démarche. J'imagine que avant son incarcération, il a été prévenu, voire même intimidé, pour ne pas réaliser ses images. Je pense qu'il a décidé de faire son métier de photographe et de journaliste, comme il l'entendait. Et bien sûr, il a maintenant disparu depuis 4 ans. Ça n'est pas sans rappeler ce qui est arrivé à l'artiste dissident Ai Weiwei il y a 5 ans maintenant. Il est parti il y a 4 mois. Il a été, voilà. Et donc voilà. Donc c'est vrai qu'on est un petit peu effaré quand ce genre de choses arrive. Ça montre la détermination de ce gouvernement de lutter contre la libre information. Effectivement, ça met vraiment en exergue une vraie dictature.
Et aussi votre détermination à tous à exposer aussi aujourd'hui dans le monde ces artistes chinois, photoreporters ou photographes, dans une pratique plus artistique, s'il en est, Jean-Luc Sorey, comme on peut le voir en ce moment à la MEP avec Zhen Hang. Quelle place occupe-t-il aujourd'hui sur le marché de l'art, ces photographes chinois?
Alors, je pense que là, pour le coup, je serais le moins bien placé pour en parler. Néanmoins, je pense qu'il a commencé à émerger au niveau international vers 2014. Et là, le problème qui se pose, c'est que Zhen Hang étant mort et les tirages étant dans des collections et dans des galeries, pour l'instant, c'est la maman et les parents de Zhen Hang qui doivent arbitrer. Et pour l'instant, du coup, comme c'est quelque chose qui est quand même à milieu de leur univers, puisque le papa de Zhen Hang est cheminot, la maman elle est ouvrière dans une imprimerie, donc c'est un univers qui, entre l'homosexualité de Zhen Hang et puis la nature de son travail, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile pour eux d'appréhender, et vous rajoutez à ça la douleur de la mère qui est encore très très présente, ce qui fait que du coup le négocier les images de Zhen Hang pour l'instant, mis à part les collectionneurs, quelques collectionneurs qui vont mettre en vente des tirages, pour l'instant c'est pas possible.
Mais le fait qu'il soit quand même aujourd'hui exposé, ça c'est une première muséale en France, à la MEP, chez
Absolument,
vous,
ouais.
Jean-Luc Sorey, montre aussi que le reste du monde, et notamment la France, est en train de s'ouvrir largement à cette photographie artistique chinoise. Un grand merci à tous les deux, merci Romain de Gaulle de la galerie Paris-Beijing, merci à vous Jean-Luc Sorey. Je rappelle donc que l'exposition Love Zhen Hang est à voir jusqu'au 26 mai à la Maison Européenne de la Photographie à Paris. Merci beaucoup.
Merci.